Et comme chaque mardi, place à la fiction, c'est le moment de retrouver Christine Goémé lisant une lettre ce soir d'Antoine Volodine. Très bon début de soirée.
Le silence de Myriam Maran, de Antoine Volodine.
Voici la lettre que j'ai reçue d'Antoine Volodine. Chère Christine Goémé, Sœur de sang, diffusée ce soir, et Verbiage dangereux, diffusé demain et après-demain, constituent deux séries de deux pièces écrites pour des voix de femmes. Dans Sœur de sang, j'ai voulu m'interroger sur deux questions qui m'ont toujours obsédée. Qu'est-ce que l'espèce humaine et comment peut-on se représenter la mort et les premiers temps d'après la mort ? Dans Verbiage dangereux, je me suis amusée à mettre en scène la nostalgie jamais éteinte de la Révolution mondiale et de ses dérapages imprévus. Il m'a semblé naturel de confier à des femmes, à des personnages féminins, le soin de traverser entre rêves et paroles les angoisses liées à notre conscience du destin, ces grandes peurs sans réponse, ces lourdes et désespérantes incertitudes, ces abîmes noirs. J'ai toujours pensé que les personnages féminins étaient, pour survivre en face de cela, plus habiles. Et puis, il y a quelque temps, j'avais donné à France Culture des pièces radiophoniques qui avaient pour thème le livre des morts tibétains, et avant l'enregistrement, le metteur en ondes m'avait fait remarquer que j'avais employé exclusivement des voix masculines. D'où, me disait-il, un certain dépit des comédiennes disponibles. Je répare aujourd'hui cette maladresse syndicalement incorrecte. Hommage aux personnages féminins, hommage aux comédiennes donc, et à leur voix. Puisque nous en sommes à parler de voix, j'aimerais ici souligner à quel point la radio autorise, en tout cas pour moi, les jeux avec le mystère et l'imaginaire. On a devant soi les contraintes du théâtre, mais comme aucune représentation n'accompagne le texte, on a la liberté de faire surgir les voix depuis un autre monde, depuis un monde étranger, que l'absence de carton-pâte rend beaucoup plus crédible. L'auditeur ou l'auditrice doivent recréer eux-mêmes, en sympathie, les êtres et les décors qui sont suggérés. Ils marchent les yeux fermés à la rencontre des images. Et lorsque la rencontre a lieu, même si l'image est terrible, c'est le bonheur. Eh bien, aux auditeurs, aux auditrices et à vous-même, chère Christine Goémé, je souhaite à présent une heureuse écoute.
Le silence de Myriam Maran, de Antoine Volodine.
Allô, caserne Koryagine, je voudrais parler au lieutenant Maran. Oui, allô, pourriez-vous me passer le lieutenant Elisabeth Maran, s'il vous plaît, de la part du sous-lieutenant Linda Maran. Oui, je vous donne mon code. 3, 3, 4, 8, 3, 10. Oui, c'est bien ça, je suis sa sœur, Linda Maran. Oui, j'attends. Allô ? Ici Linda Maran, j'aimerais parler au lieutenant Elisabeth Maran. Oh, c'est vous mon commandant? Excusez-moi, c'est une erreur du standard. Oui, merci. Allô Betty? Oui, je sais que tu détestes être appelée à la caserne. Non, attends, c'est qu'il y a un problème. Ah oui, évidemment, avec Myriam, elle a disparu. Hier soir, elle était très nerveuse. Hier, elle ne tenait pas en place, j'ai voulu lui donner des canons, mais elle a refusé de les prendre. Tu sais comment elle est quand elle couvre une crise? Elle a passé son temps à aller et venir dans l'appartement, claquant les portes. Oui, le cinéma habituel. Non, hier, ce n'était pas la peine de t'appeler. Ça signifiait pour moi deux jours un peu difficiles, mais enfin, hier plus difficile que les autres jours. Toi aussi, tu t'es occupé d'elle. Tu connais la durée des crises et... Oui, c'est vrai, depuis cette année, depuis que le front a progressé, elle est beaucoup plus impressionnable. Depuis qu'on a muré les fenêtres qui donnent sur la rue. Dans sa chambre, il y a une fissure entre les parpaings. Elle se met en face, elle reste là pendant des heures, debout, l'œil collé à cette meurtrière. On en rit ensemble quand elle est de bonne humeur. Oui, elle dit qu'elle surveille les territoires ennemis. Non, on ne voit rien, on ne voit jamais rien de précis. Toi qui travailles avec le renseignement, tu le sais mieux que nous. Tu es mieux placée que Myriam. Oui, moi aussi j'ai regardé à travers les parpaings. On distingue une sorte de terre labourée sans aucune végétation. Ça commence de l'autre côté de la rue, immédiatement après la ligne de tramway, là où il y avait des maisons. Ce n'est pas abominable comme paysage, mais quand on sait que maintenant c'est une terre complètement hostile, étrangère... Oui. Donc hier matin, Myriam était debout devant la meurtrière de sa chambre. Elle ne bougeait pas. Moi, je me préparais à sortir faire des commissions. J'ai entendu pousser une exclamation, comment te dire, de surprise, de douleur. Je suis entrée dans sa chambre, elle avait l'air égarée, choquée. Elle n'a pas répondu à mes questions. Elle n'a pas voulu répondre. Je suis certaine qu'elle a vu quelque chose là-bas, de l'autre côté de la ligne de front. Peut-être l'ennemi. Oui, enfin, je ne sais pas. En tout cas, elle a vu quelque chose. Et à partir de ce moment-là, elle s'est agitée de plus en plus. Vers la fin de l'après-midi, elle s'est un peu tranquillisée. Elle s'est mise à écrire des lettres. Puis, elle m'a dit qu'elle allait les poster. Non, je ne sais pas à qui. Je n'ai pas vu les adresses. Il y avait 3 ou 4 enveloppes. Elle correspond avec des filles qui étaient avec elle à l'institut. De temps en temps, les autres lui répondent, lui envoient une carte postale, voilà. Elle est sortie poster ses lettres vers 6h30. Je pensais que ça lui ferait du bien de prendre l'air. D'ailleurs, c'est ce que le médecin nous a recommandé. Même si on sent qu'une crise approche, il faut la laisser sortir. Autrement, elle aurait l'impression qu'on l'enferme, elle sauterait par une fenêtre. Comment ? Non, évidemment, du côté de la ligne de tramway, elles sont murées. On ne me prend pas pour une gourde, je sais bien que tu plaisantes, Betty. Et donc j'ai proposé à Myriam de l'accompagner jusqu'à la poste, mais elle a refusé. C'est 1/4 d'heure de marche. Il y a des patrouilles tous les 200 mètres, je pensais que rien ne pouvait... Elle a mis son manteau et elle est partie. J'ai entendu la porte de la rue s'ouvrir et se refermer, et c'est tout. Non ? Non, j'ai préparé le dîner, j'ai épluché des carottes, j'ai lu le journal. Ensuite, très vite, je me suis inquiétée. À 7h30, je suis sortie à mon tour. J'ai marché en direction de la poste. Il faisait nuit, il n'y avait déjà presque personne dehors. Le couvre-feu commence à 9h, mais à partir de 7h, on ne rencontre plus que des militaires. Oui, je suis rentrée. La maison était vide. J'avais espéré que peut-être... Qu'on s'était raté, je ne sais pas, qu'elle avait pris un autre chemin, même si... Enfin, toute la nuit, j'ai appelé les services d'urgence. Comment ? Oui, l'hôpital central, les polycliniques, la milice, les chefs de patrouille, j'ai laissé mes coordonnées, ils m'auraient rappelé s'ils l'avaient ramassé. Écoute, Betty, j'ai réfléchi, je te dis franchement ce que je pense. Le mieux serait que tu demandes l'assistance du renseignement. Vous avez des moyens pour repérer les gens, vous avez des postes de contrôle sur le front, vous vous vantez de posséder des techniques pour analyser ce qui se passe derrière les lignes ennemies, non ? Il paraît que vous pouvez envoyer des observateurs, de temps en temps. Oui, je... Oui. D'accord. Je sais ce que c'est qu'un secret militaire, Betty, tu n'as pas besoin de me l'apprendre, je sais... Nous vivons là-dedans depuis tant d'années. Je ne divulgue rien, je suggère simplement que tu en parles à ta hiérarchie. Le commandant Gerchel a toujours été très amical à l'égard de notre famille. Je lui ai dit 3 mots tout à l'heure avant de t'avoir au bout du fil, il est très gentil. Non, nous n'avons parlé de rien, la standardiste s'était trompée. Écoute, il connaît Myriam, nous avons joué avec ses petites sœurs quand nous habitions encore près du canal avant la guerre. Tu te rappelles ? Oui, tu vas lui parler ? D'accord. Je suis certaine qu'il fera quelque chose, oui. Je ne bouge pas, je reste à côté du téléphone. Il est un peu plus de 11h. Oui, j'attends. Je t'embrasse, Betty. Oui, moi aussi. Je t'embrasse.
Je vous reçois, Magadan. J'étais en train de faire mes adieux à ma sœur.
Je sais, nous avons entendu. Ne vous inquiétez pas, Betty, tout va bien se passer.
Je serai là en permanence pour vous guider. Vous ne serez pas seul, Betty. Même là-haut, dans les ténèbres et en face des ténèbres, vous ne serez pas seul.
Vous êtes prête? Donnez votre position.
Je suis au dernier étage, devant l'escalier du grenier.
Commencez à monter les escaliers marche à marche. Décrivez ce que vous voyez, Betty. Tout. ce que vous voyez, ce que vous sentez. N'hésitez pas à faire des pauses, mais ne vous arrêtez pas de parler.
Je pose le pied sur la première marche. Tout est très sombre. La lampe du récepteur est très faible, mais elle suffirait pour me faire repérer. Je vais cacher le récepteur sous mon manteau.
Mes yeux sont habitués à l'obscurité. La poussière est épaisse sur les premières marches. Il y a une enveloppe par terre. Des traces de pas, peut-être récentes, peut-être pas. Est-ce que je ramasse l'enveloppe ?
Il y a forcément des pièges destinés à prévenir l'ennemi de votre approche, je ne sais pas à quoi il ressemble. Engagez-vous sur l'escalier sans toucher à rien, Betty. Ne ramassez rien.
De toute façon, je n'ai pas assez de lumière.
La poussière est épaisse comme de la neige. J'ai monté 6 marches. Je m'arrête 1 seconde. Le toit du grenier a été éventré. Je commence à sentir un courant d'air. Le ciel est d'un noir différent.
Quand on regarde avec ténacité, on distingue les poutres et les ardoises brisées, les déchirures. Au-delà, il n'y a pas d'étoiles. J'aperçois des gravats sur l'escalier, mais pas d'obstacle. Est-ce que je continue ?
Oui, continuez lentement, Betty, marche après marche. Je préférerais aussi que vous chuchotiez. Je sais comme c'est désagréable de chuchoter dans les ténèbres pendant l'action, mais ainsi vous attirerez moins l'attention de l'ennemi. Est-ce que vous sentez une odeur particulière ?
Ça sent la poussière et aussi l'air frais qui vient du dehors. Une odeur de terre mouillée. J'entends les tramways qui s'engagent au bas de la rue. Vous l'entendez ?
Oui, on l'entend très bien. Parlez-moi fort, Betty. Chuchotez, c'est plus raisonnable.
Je suis arrivée en haut des marches. L'odeur du dehors est plus forte. Il y a aussi les odeurs normales du grenier. Des vieux tissus, de la ferraille. On ne voit rien. Je vais promener la lampe du récepteur sur le sol, devant mes pieds.
Ne faites pas ça, Betty. Betty, si vous ne distinguez aucun détail, au contraire, c'est mieux. Recouvrez entièrement la lampe avec les pans de votre manteau. Vous avez franchi la dernière marche ?
Pas encore.
Dès que vous aurez franchi la dernière marche, accroupissez-vous en entourant la lampe avec vos vêtements, avec votre corps. Et restez ainsi pendant un moment le temps de vous habituer au grenier.
Voilà. J'ai franchi la dernière marche. Je suis accroupie. Je ne bouge pas. Il y a un courant d'air. Aucun souffle de vent, mais j'entends un peu d'air qui siffle sur les arêtes coupantes des ardoises. Je m'habitue au grenier. L'obscurité est encore différente. Comme si j'avais accédé à un niveau inconnu d'obscurité. Je vois pourtant. Je vois des ardoises éparpillées partout. Des morceaux de bois. Des lattes cassées. Le toit a éclaté. Il règne ici une atmosphère de très grande désolation. Tout est tombé sur les vieilles malles empilées, les caisses de vaisselle, les vieilles bicyclettes. À 1 mètre sur ma droite, je vois une lettre, une enveloppe. C'est Myriam qui a dû la laisser tomber, comme la première au début de l'escalier. C'est une trace laissée par Myriam.
On ne peut pas savoir. Restez accroupis sans toucher à rien, Betty. Ne regardez pas du côté de cette lettre. Concentrez-vous sur le trajet que vous allez suivre pour aller jusqu'à la brèche du toit.
J'ai l'impression que l'ennemi n'est pas loin. L'air qui vient du dehors est brusquement comme... Je ne sais pas. Les appréciations qui viennent à l'esprit sont bizarres. Un air accablant qui n'est pas à respirer. Un air qui invite au silence, qui n'apporte aucune vie.
Ne vous occupez pas de l'air, Betty.
Il faut bouger maintenant. Déplacez-vous en direction de la brèche. Avancez en canard.
Continuez à chuchoter, Betty. L'ennemi ne pourra rien sur vous tant que vous parlerez. Ne vous laissez pas troubler par le silence de l'ennemi. Ne vous laissez pas envahir.
Je me dirige vers la brèche.
Je marche mon canard parmi les gravats, les ardoises en miettes.
Plus loin, la nuit est froide. La nuit se rapproche. Le vide se rapproche. Il y a près de moi un petit souffle. Vous l'entendez? C'est l'air du grenier éventré qui siffle sur les ardoises. Je pense que c'est l'air de la maison qui s'enfuit vers la nuit. Vous l'entendez, ma cabane?
On ne reçoit que votre voix, on ne reçoit rien d'autre. Ce n'est bon, Betty.
Continuez. Vous faites un travail formidable. C'est un parcours sans faute jusqu'ici.
Le toit est totalement éventré autour de moi. Le sol n'est plus sûr.
Les ardoises glissent sous mes pieds.
Une ardoise glisse. Elle bascule dans le vide. Elle s'écrase en contrebas sur la ligne de tramway.
N'avancez plus, vous pourriez perdre l'équilibre. Il n'y a rien pour vous raccrocher au cas où...
Non, rien. Ah si. J'aperçois une corde arrimée à la charpente. Elle plonge dans le vide, en direction de l'ennemi. On devrait pouvoir l'utiliser pour éviter une chute.
Ne touchez pas à cette corde, Betty. Ôtez-la de votre esprit, elle ne vous serait d'aucune utilité.
Mais si, elle est assez longue. Je pourrais même descendre le long de la façade et prendre pied sur la rue. Je me trouverais alors à 200 ou 300 mètres des lignes ennemies. Il y aurait seulement les rails à traverser.
Faites très attention, Betty. Ne tendez pas la main vers cette corde. Oubliez cette corde.
Elle m'attire. Je suis sûre que Marianne s'en est servie. Elle s'est débarrassée des lettres qu'elle avait sur elle et elle est descendue par ce passage. Je pourrais essayer de la rejoindre.
Arrachez-vous à l'idée de cette corde, Betty, c'est un ordre. Dirigez votre regard sur la nuit, sur les territoires que l'ennemi contrôle au-delà de la rue.
Je me sens épuisée tout à coup. Je sais que c'est un effet de... Enfin, voilà. Je me sens terriblement triste et épuisée. Je n'ai plus envie de continuer.
Je suis là, Betty. Vous êtes accroupie? Betty! Répondez, Betty, vous êtes accroupie?
Oui.
Asseyez-vous carrément sur les débris, en reculant un peu pour vous éloigner de la brèche. Entrouvrez votre manteau. Regardez la lumière du récepteur, nous sommes à vos côtés. Si quelque chose va mal, nous enverrons aussitôt une équipe pour vous récupérer. Continuez à parler.
Je me suis assise. Merci pour la lumière. Je vais essayer de tenir bon. Je suis assise, les jambes écartées. C'est une élégance. On dirait une marionnette au repos. Qu'est-ce que je dois faire maintenant?
Je n'ai jamais été accablée par un aussi fort sentiment de détresse.
C'est sans fond. Marianne a dû souffrir horriblement dans cet endroit. Elle était seule. Aucune lumière n'était là sur son manteau contre sa peau pour la rassurer. Elle a touché la corde et...
Elle qui avait si peur du vide.
Regardez le ciel, Betty. Regardez la nuit devant vous. Ne pensez absolument plus à cette corde.
De l'autre côté de la rue, avant, il y avait des maisons, une ville. Et maintenant, on ne distingue rien jusqu'à l'horizon. L'air sent l'humidité. Une humidité minérale, comme très loin sous terre, dans les grottes profondes où toute vie a disparu. Je n'arrive pas à regarder. Je n'arrive pas à voir. J'ai seulement l'envie de me jeter dans le vide.
Tramway. Le conducteur ne respecte pas le couvre-feu?
Il n'y a pas de conducteur dans le tramway, Betty. Le tramway est vide. Nous le faisons circuler pour revendiquer encore cet espace sur la ligne de front. La rue nous appartient encore, toute la largeur de la rue. Le tramway roule ce soir pour vous rappeler cela, Betty. Il y a tout de même entre vous et la nuit un espace où l'ennemi ne se promène pas encore en maître.
Ce serait peut-être mieux d'annuler. Je me sens extrêmement fatiguée.
Regardez au-delà de la rue, Betty. Vous êtes en mission d'observation. Vous devez nous renseigner sur ce que vous voyez. Si vous êtes trop affaiblie, l'équipe viendra vous récupérer.
Je n'arrive plus à concevoir ce qu'il y aura après. Je n'arrive plus à comprendre ce que pourrait faire l'équipe pour m'aider. J'ai seulement envie de... J'ai envie de rejoindre Marianne.
partir de maintenant, ça peut évoluer mal. Puisez dans vos réserves mentales. Vous n'avez pas besoin de rejoindre votre sœur pour l'apercevoir. Concentrez votre regard en bordure du territoire ennemi, Betty. Votre sœur n'est pas loin, elle n'a pas pu s'enfoncer loin dans ces ténèbres. Vous devez l'apercevoir. Il suffit que vous la captiez dans la nuit à l'intérieur de votre regard.
Appliquez les techniques que vous connaissez, Betty. Vous avez été formée pour cela.
J'ai du mal à me concentrer. Laissons tomber, Magadan.
Appliquez les techniques que vous connaissez, Betty. C'est un ordre. Même les techniques secrètes, vous m'entendez, Betty? Appliquez les techniques secrètes, Betty, je vous l'ordonne.
Maintenant, je vois les territoires. C'est une terre de mort obscure, labourée, huileux jusqu'à l'horizon. Noire. À une distance de 50 ou 60 mètres, je vois la silhouette de Myriane. Elle est debout. Elle ne fait aucun mouvement. Elle dérive lentement, comme si elle se déplace lentement à l'intérieur de mon regard, mais elle ne bouge pas.
J'éprouve un sentiment de détresse que j'aimerais la rejoindre.
Elle donne l'impression de dériver parce qu'elle veut quitter l'ennemi.
Le courage est pire plus que le désespoir et la solitude chez l'ennemi. Ne renoncez pas, Betty. Continuez à fixer cette silhouette.
Elle avance très lentement. Elle est entourée d'un brouillard. Elle flotte sans faire un mouvement. C'est effrayant. Le brouillard la retient.
Pendant de longues secondes, elle disparaît. Elle est complètement absorbée. Maintenant, elle réapparaît. Je n'en peux plus. Je la reconnais mal. Je n'en peux plus, Magadan. Je ne contrôlerai plus mes pensées à partir de maintenant. Donnez l'ordre à l'équipe.
On envoie l'équipe.
Même avec les techniques secrètes.
L'équipe va vous récupérer, elle est en route.
Je n'en peux plus.
Restez assise. Écartez les jambes pour ne pas glisser vers le vide. Continuez à parler. Fermez les yeux. Écartez les jambes sur les débris.
Regardez la lampe du récepteur maintenant, Betty.
Vous la regardez? Pensez à nous parler. Il n'y a rien de plus précieux que cette lampe entre vos jambes, Betty. Tant que vous parlerez, tant que vous fixerez la lampe, vous resterez en vie, Betty. Parlez!
C'est fini. Tout est noir.
Je vous écoute.
Tout est noir. Moi aussi. J'ai toujours détesté le noir. Comme cette petite conne qui... C'est très noir, humide et noir. Cette petite connasse de Myriane. Dorlotée, choyée. Une sale petite gosse égoïste. Une petite merdeuse capricieuse.
Comme si on était pour toute la durée de notre existence à son service. Comme si on devait lui consacrer notre vie. Il n'y a plus que du noir. De l'humidité répugnante. Et cette petite conne qui est allée plonger dedans. Cette petite salope.
Depuis longtemps, elle voulait se frotter à l'humidité obscure de l'ennemi. Elle a toujours été noire et humide à l'intérieur.
Continuez, Betty, tout va bien. L'équipe arrive devant la maison Volgelan. Dites ce qui vous passe par la tête. Seule votre voix compte. Nous nous occupons de tout maintenant. L'équipe est entrée dans la maison, elle va vous récupérer.
Je ne sais pas si je suis morte ou si je dors. Je ne distingue plus aucune lumière. De quelle équipe parlez-vous?
Qui êtes-vous?
Puisez dans les techniques secrètes, Betty. L'équipe arrive.
Quelle équipe? Quelle technique secrète?
Lieutenant Maran. Elisabeth Maran. Tenez bon. Continuez à parler. Ici, Magadan. Parlez. L'équipe est sur l'escalier du grenier.
Je ne sais pas si je parle dans mon sommeil ou dans mon cadavre. Magadan? Jamais entendu ce nom? Écoutez, Magadan. L'extérieur est noir et humide. L'intérieur aussi. Quel grenier?
A été coupée, et ensuite rien, pourvu que le secours ait pu arriver à temps.
Betty, Betty, ma petite sœur, si je savais prier, je prierais pour toi. Allô? Ah, c'est vous, commandant Gershel. Est-ce que Betty... Oui. Ah. Ah, vous me rassurez. J'avais peur que l'équipe ne puisse pas... Oui, évidemment. Je me doutais bien que vous ne pourriez rien me communiquer avant quelques heures. Oui, bien sûr. Ah, c'est bien, c'est bien. J'avais peur. Ah bon? Myriane? Elle va revenir ce soir? Tout de suite? Oui, avec joie. Certainement. Oui, je me doute qu'elle aura changé. Elle aura besoin d'un bon bain, de... Pardon? Oui, mon commandant. La laisser tranquille, cela va de soi. Ah bon? Vous pensez que je ne devrais même pas l'approcher, même pas... Oui, d'accord. Et lui parler? Non? D'accord, puisque vous le dites, mon commandant. Et, écoutez, mon commandant, j'entends justement la porte d'entrée qui s'ouvre, ce doit être elle. Vous ne pensez pas que je dois... Non, le couloir n'est pas éclairé. Ah, je ne sais pas, mon commandant, c'est la pénombre, je ne la vois pas très bien. Elle passe. Son manteau est noir de boue, plein de taches de... On dirait de la boue ou de l'huile ou du sang. Elle va en direction de sa chambre. Elle est passée. Je ne reconnais pas sa manière de marcher. Elle a grossi, ses cheveux sont sales. Je n'ai pas vu sa figure. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Vous avez entendu la clé tourner dans la serrure? Non? Bien, mon commandant. Oui. Je ferai comme si tout était normal. Oui. Oh, moi, je pense que je vais aller somnoler dans un fauteuil du salon. Oui. Je ne sais pas comment vous remercier, mon commandant. Eh bien, d'avoir donné le feu vert pour l'opération. Oui, bien sûr, c'est Betty qui... Betty a toujours été exemplaire, la meilleure d'entre nous. Oui. Bonne nuit, mon commandant. Myriane, tu as éveillé? Tu as réveillé, Myriane? Tu veux quelque chose? Du thé, une tranche de cake? Tu as réveillé maintenant, Myriane? Bon, je pose le plateau devant ta porte. Oui, j'arrive! Tu portes des lunettes noires? C'était affreux hier à la radio, affreux. On sentait la présence de tous les ennemis autour de toi.
Je ne me souviens de rien. À partir du moment où ça a commencé, après que je t'ai parlé, je ne me souviens de rien. Tu te rends compte? Ce matin, je n'arrivais pas à comprendre que je me trouvais dans l'unité de soins spéciales.
Finalement, alors ils t'ont dirigé sur l'unité de soins spéciales. Le commandant Gershel m'a dit le contraire hier soir.
C'est à cause de mes yeux. Ils ont été abîmés par l'obscurité. On m'a transféré dans l'unité à la fin de la nuit. De toute façon, il n'y a rien à faire. Portez des lunettes.
C'est tout. Mais ça va passer?
Non. L'obscurité absolue m'a attaqué le nerf optique. Je vois encore, mais à travers un voile. Quand la luminosité est trop grande, le voile scintille, m'éblouit. La nuit, en revanche, je verrai comme en plein jour.
Myriam est revenue. Elle est dans sa chambre. S'est enfermée dans sa chambre.
Je sais, on m'a dit. Tu l'as vue hier soir?
Elle m'a paru énorme tout à coup. Comme si elle avait doublé de volume. Et elle marchait d'une manière bizarre. Son manteau était répugnant. Le couloir n'était pas éclairé. Le tissu paraissait humide de terre ou de sang.
Ce n'est pas plus mal que tu n'aies pas aperçu sa figure.
Pourquoi? Elle a été défigurée?
Défigurée, je ne sais pas, mais elle a séjourné chez l'ennemi. Elle ne sera plus jamais pareille à la petite Myriane que nous avons connue. Elle est déjà très, très différente. Physiquement, mentalement, différente. Et d'ailleurs, si je l'ai aperçue, c'était dans la distance. Pas de près.
Je n'arrive pas à croire que Myriane puisse nous paraître à ce point étrangère. Si elle est blessée ou mutilée, nous accepterons sa blessure, sa mutilation, même si elle est devenue très laide. Là, juste derrière la porte, c'est quand même notre Myriane qui s'est enfermée à clé. Notre petite sœur, pas une étrangère.
Il paraît qu'on ne peut pas s'habituer au visage d'une femme qui a été en contact avec l'ennemi.
Qui est-ce qui prétend ça?
Tout le monde à la caserne. Magadan, Gershel, l'équipe de secours, tout le monde. Ils disent qu'on ne peut s'habituer ni à son visage, ni à ce qu'il y a derrière.
Mais qu'est-ce qu'il y a derrière?
Derrière, il y a l'obscurité de l'ennemi. Une obscurité absolue et incompréhensible.
Moi, je vois surtout que derrière la porte, il y a notre petite sœur qui se cache. Elle a certainement conscience d'avoir été modifiée et elle en ressent de la peur ou de la honte, je ne sais pas. Elle veut nous épargner, c'est pour cela qu'elle s'est enfermée. Mais elle est revenue parce qu'elle est attachée à nous. Quelque chose la retient ici, et c'est nous. Je veux dire l'amour que nous lui portons et qu'elle nous porte.
Tu as raison. Tu as raison. Je vais lui parler à travers la serrure. Myriane, tu es là? C'est Betty. Tu es là, petite sœur? Linda t'a préparé du thé. Tu ne veux pas en boire une goutte? Tu m'entends, Myriane? Écoute, maintenant que tu es revenue, tout va bien. Nous sommes réunis de nouveau, toutes les trois, dans la grande maison. On m'a accordé un congé. Je vais venir habiter ici, dans l'ancienne chambre. La chambre bleue, l'endroit où je t'ai appris à jouer au mahjong. Tu te rappelles? Linda est à côté de moi. Nous sommes ensemble de nouveau, toutes les trois. Allez, Myriane, fais un effort. Essaie de répondre.
Je ne sais pas ce qu'elle fabrique. Cette nuit, elle a déplacé des meubles. Je crois qu'elle a barricadé la fenêtre avec l'armoire. Au moins, elle ne passera plus son temps collé contre les parpaings à scruter les lignes ennemies.
Elle n'a plus besoin de le faire maintenant. Les spectacles se déroulent à l'intérieur d'elle-même. Pour voir l'ennemi, il lui suffit de fermer les yeux.
Tu te rappelles, Betty, quand cette photographie a été prise?
Notre voix. Tu sais, maintenant, de jour, je ne vois presque rien.
Pardonne-moi, Betty. Je parlais de la photo que j'ai fait encadrer l'année dernière, celle que Tatiana avait prise.
Ah, oui. Toutes les trois, dans le jardin, chez Tatiana. C'est si loin. J'avais 12 ans.
Et moi, 15. Et donc, Myriane, 6 ans.
L'image même du bonheur de notre enfance. J'adore cette photo.
L'ennemi se préparait déjà, je suppose. Mais il était si impensablement loin.
Attends! J'entendais pas dans la chambre.
Au fait, j'y pense. Mais elle ne peut pas rester enfermée longtemps comme ça. Qu'elle ne déjeune pas ce matin, d'accord, mais elle ne va pas se laver, aller au cabinet?
Magadan m'a prévenue. On ne peut même pas imaginer à quel point elle aura été transformée. Peut-être qu'elle n'aura plus jamais aucun besoin physique. Tu sais, il y a 8 ans que la guerre a débuté, mais nous n'avons pas encore réussi à nous introduire dans les raisonnements de l'ennemi. La communication est impossible. Nous n'y comprenons rien. Personne encore n'a pu définir ce qu'était réellement l'ennemi, ni même à quoi elle ressemblait. Maintenant, Myriane sait tout cela. Et ça se reflète sur elle, sur son esprit, sur son apparence. C'est une connaissance qui la rend horrible.
Elle vient de glisser une feuille de papier sous la porte. Tu vois, malgré tout, elle veut nous répondre. Elle veut communiquer avec nous. Qu'est-ce que... Je ne comprends pas ce qu'elle écrit. Ce n'est pas son écriture, mais surtout...
Qu'est-ce qu'elle écrit?
Ce n'est pas un message pour nous, enfin... Ce sont des phrases obscènes. Regarde, essaye de lire. Je n'ai pas envie de dire ça à haute voix.
Mes yeux sont trop abîmés. Je ne peux rien déchiffrer. Quand il fera nuit, ce soir, je pourrai lire. Mais pas tout de suite.
Écoute, Betty, ce sont des horreurs. Un délire très cru. Beaucoup plus sale que ce que des soldats disent quand ils sont sous. C'est incroyable ce que l'ennemi peut... Notre petite Myriane, si pudique, si pudibonde même... Et tout ce qu'elle a à nous dire, c'est ce tissu de cochonnerie.
Tu sais, parfois, au fond de nous, on a du ressentiment. Des rages irrationnelles, des haines qu'on ne laisse jamais venir au jour. Même entre sœurs. Peut-être même que c'est naturel entre sœurs.
Je sais, oui. Non, mais sur ce papier, elle remet des choses ignobles. Elle nous associe toutes les trois dans une espèce de vomissure barbare. On dirait une putain qui s'adresse à d'autres putains avec le désir de les choquer. C'est une telle accumulation d'ordures, Betty.
L'ennemi pèse sur son esprit. Il n'y a pas d'intention agressive, c'est seulement sa nouvelle manière d'être. Elle a en tête une saleté pour laquelle nous n'avons pas d'équivalent dans notre langage. Elle est physiquement obligée d'injurier tout ce qui se trouve ailleurs que chez l'ennemi. Elle est obligée de remuer une pensée sale et noire, d'une noirceur humide, inimaginable. C'est comme ça qu'elle va nous parler maintenant.
Ne me dis pas, Betty, que désormais, elle ne va pas utiliser d'autres langages pour communiquer avec nous.
Dani Magadan m'a décrit ce à quoi nous pouvions nous attendre. Elle va se cloîtrer. Et, derrière la porte de sa chambre, continuer à se modifier. Même si on a pu la réaspirer jusqu'ici, sa nostalgie de l'ennemi ne cessera d'augmenter et de la tourmenter. Notre petite sœur deviendra de plus en plus grosse. Dans l'obscurité, elle tentera de reconstituer quelque chose qui lui rappellera son séjour là-bas. Plus ce sera ténébreux, étouffant, inhumain, incompréhensible, plus ça ressemblera à son contact avec l'ennemi. Et en même temps, elle se sentira affreusement malheureuse.
Et qu'est-ce qu'elle a dit, Magadan, au sujet de la langue ordurière, des messages qu'elle nous enverrait?
Magadan n'a pas parlé d'obscénité. Elle a supposé que Myriane aurait de plus en plus de mal à trouver avec nous un langage commun. Mais elle a dit qu'au début, elle essaierait d'établir un contact avec les moyens qui lui resteraient. Un contact affectif.
Oui, évidemment, je ne vois pas quelle autre fonction pourrait avoir ce bout de papier.
Oui, c'est un contact. Une demande de contact. Un appel affectueux de notre petite sœur. Un signe émis par ce qui reste de Myriane, avec les dernières formules humaines qu'elle connaît encore. Au fil du temps, a dit Magadan, elle perdra tout souvenir nous liant à elle.
C'est abominable, abominable.
C'est comme cela, la guerre. À la fin, elle ne se rappellera même plus ce que c'était que l'amour. Notre amour. Elle nous aura oublié. Elle ne souffrira plus. Mais pour l'instant, elle se souvient encore de quelque chose. Son corps se souvient. Elle fait un effort gigantesque pour s'adresser à nous. Il faut répondre.
Tu penses que nous devrions lui glisser sous sa porte une page de prose pornographique?
Je ne sais pas. Je ne me vois pas en train d'écrire ce genre de choses pour l'instant, mais peut-être qu'il faudra apprendre à le faire.
De toute façon, la communication ne se fera pas. Autant insister avec des paroles d'amour normales. Myriane, tu m'entends? Nous avons reçu ton message. Tu m'entends, petite sœur? Tu es là, ma petite Myriane? Nous sommes là, ensemble, toutes les trois dans la grande maison. Rien ne nous séparera jamais, Myriane. Nous sommes avec toi. Je ne sais pas si elle m'entend, si elle me comprend. Quelle horreur, c'est comme si je faisais une déclaration d'amour à l'ennemi.
Non, pas à l'ennemi, Linda. C'est toujours Myriane qui est là derrière. Même si... Tu es une partie de nous, Myriam. Tu es indissociable de nous trois. Nous resterons ensemble, quoi qu'il arrive. Même si tu es bientôt entièrement réabsorbée par l'ennemi. Même si ta chambre devient une portion du territoire ennemi. Nous serons encore là, de l'autre côté.
tout près de toi. Et toi, tu seras encore là, avec nous. Myriam, tu m'entends? Petite sœur, tu m'entends? Nous serons ensemble, toutes les trois, jusqu'à la fin. Petite sœur, tu es là? Tu m'entends, petite sœur? Tu nous entends.
Le silence de Myriam Maran de Antoine Volodine.
Annie Mercier, Marine Delterme, Nathalie Kuznetsov.
Bruitage Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage Bernard Lagnel, Catherine Dérété. Assistant Jean-Sébastien Esposito. Réalisation Myron Mercier. Outrage à Migal de Antoine Volodine.
Sylvia, vous préféreriez peut-être qu'on dise à la technicienne de brancher l'éclairage.
Au contraire, c'est mieux comme ça, dans l'obscurité. On travaillera dans une ambiance plus feutrée. Et ça nous donnera moins des allures de tribunal. Puisqu'on a annoncé à Natacha Dovchenko que c'était une commission d'enquête.
Vous la voyez, vous, Sylvia, la différence entre une commission d'enquête et un procès?
Il n'y en a aucune, on le sait bien. Mais les accusés, elles, quand on leur parle d'une commission, elles ont tendance à croire que tout n'est pas joué d'avance. Elles sont moins nerveuses, elles se défendent au lieu de rester abattues et de se taire.
De toute façon, elles n'en réchappent pas.
Non. Il n'en réchappe pas. À partir du moment où elles entrent ici, pour elles, c'est sans issue. Dans un instant, on commencera. Dès que la présidente sera arrivée, c'est Mamaya Yanisei qui a été désignée comme présidente. Vous le saviez, Denis?
Oui, ça m'a rassurée de l'apprendre. Mamaya Yanisei est vraiment la personne indiquée pour diriger les débats sur l'affaire Dovchenko. J'ai l'impression qu'avec un autre juge, on aurait du mal à traiter le dossier correctement.
Oh, on y arriverait. Mais ça manquerait d'élégance.
Voilà, ça manquerait d'élégance. D'élégance humaniste. On se bornerait à écouter la déclaration de Natacha Dovchenko, on émettrait un ou deux avis, et on finirait par l'exécuter pour conclure la séance. Mais ça ne ressemblerait pas à quelque chose de juridiquement impeccable. Ça risquerait de ressembler à une simple formalité barbare.
Ouais. Ça rappellerait un peu trop ce qui se faisait il y a 2 siècles, avant la naissance de la civilisation.
Tandis qu'avec Mamaya Yanisei à la présidence, on va assister à un bel exemple de justice à visage humain, j'en suis sûre.
Mamaya Yanisei aime bien organiser la discussion. en faisant croire aux accusés qu'elle est sensible à leur raisonnement.
Oui. C'est un dossier vraiment bizarre. Ça vous inspire, vous, les élucubrations de cette Natacha Dovzhenko?
Non, pas du tout. Ça relève de la psychiatrie. Enfin, maintenant, la machine judiciaire est lancée. Natacha Dovzhenko sera exécutée dans le prétoire, au lieu d'être piquée dans une clinique.
Salut, Sita. Vous ne mettez pas votre masque, Sylvia?
Non. Je l'enfile le moins possible. J'aime bien rester comme ça, aveugle dans les ténèbres, à reconstituer le monde d'après les sons, les vibrations, les odeurs, ou encore d'après les minuscules variations de température. Vous savez, Jenny, j'ai été élevée dans une crèche au principe très rigide. Longtemps, on m'a interdit le port du masque. Et ensuite, quand on m'a appris à voir, grâce à tous ces appareils, eh bien, je trouvais que la vision n'était pas très nécessaire, finalement.
Vous avez raison, Sylvia, mais ça ajoute un petit plus, à mon avis. Même quand l'ombre est épaisse. Moi, le masque, je préfère me le plaquer sur la figure en permanence. Même pour dormir.
Ah bon? Même pour dormir? Ça ne vous gêne pas?
J'adore le moment où on se réveille et où on voit immédiatement le décor autour de soi. Les verticales immobiles, les filets déployés dans le dortoir, les mailles du hamac couvertes de gouttes de condensation, les couleurs du corps des autres dormeuses, la terre grise des tunnels, quand le hamac a été suspendu à proximité d'une issue.
C'est beau un dortoir la nuit.
Oui, c'est magnifique.
Natacha Dovzhenko est dans la salle là-bas. Je la devine. Sans mon masque, je la devine. Elle ne bouge pas. Ah, si. Elle vient de bouger. Je parie qu'elle est habillée de noir. Les gens qui ont l'occasion de travailler à l'extérieur sont persuadés qu'il est naturel de se vêtir de ténèbres quand on se déplace dans les ténèbres. Elle s'est habillée comme une veuve noire, n'est-ce pas?
Elle est en noir, en effet, et elle n'a pas son masque. Maintenant, elle ne fait plus un geste. On la distingue à peine au fond de la salle.
Et son parfum? Vous avez remarqué son parfum, Jenny? Ça évoque le goutron, les incendies, les puits en flammes.
Son adresse est mentionnée dans le dossier. Elle habite une pyramide qui a été détériorée par le feu au temps des troubles. C'est aussi le cas de l'archéologue qui est à côté d'elle, la femme qui a été convoquée en tant qu'expert.
Ah oui. Celle qui porte un nom impossible. Comment déjà?
Indira Killer.
Indira Killer. C'est fou.
Elle a enfilé son masque et elle nous regarde. Un masque lourd, avec des lunettes très bombées, comme c'était la mode il y a 50 ans. Elle est totalement immobile. Elle se donne un genre.
Ah oui. Son odeur me parvient à présent. Du goudron aussi. Du pétrole grillé. On sent l'angoisse qui lui coule le long des poils. Je suis certaine qu'elle nous est hostile. Comme on va aborder des sujets sensibles, elle sait qu'elle risque gros, elle aussi.
Oh, si elle se tient bien, si elle collabore avec nous pendant le procès, On la laissera exécuter l'accusé en fin de séance. Et si elle le fait avec doigté, elle aura la vie sauve. En général, les experts sauvent leur peau. Depuis quelques années, les experts se comportent souvent comme si leur rôle était de soutenir l'accusé. Mamaya Yenisei considère que c'est de bonne guerre. Elle abonde toujours dans leur sens. Je crois qu'elle s'en fiche un peu. Ça ne change rien à la décision finale, alors elle s'en fiche un peu.
Je l'entends. Elle s'approche.
Vous avez l'ouïe drôlement fine, Sylvia. Moi, je n'entends rien.
C'est le défaut des masques. Ils rétablissent la vision, mais du coup, les autres sens s'émoussent. Elle s'est engagée sur le hamac d'entrée. Elle marche dans le hall. Vous l'entendez à présent?
Oui, tout de même. Je ne suis pas sourde. Elle traverse la galerie supérieure. Elle fait un détour pour dire un mot à la technicienne. Maintenant, elle écarte l'étoile de sécurité. Elle va nous rejoindre. Sylvia, je crois que vous pouvez inviter Tovchenko et Killer à s'approcher.
Oui, je vais le faire. Accusé Natasha Dovchenko, prenez place en face de nous, s'il vous plaît. Expert Indira Killer, vous pouvez vous avancer, vous aussi? Oui. Jusqu'au filet de séparation. Le procès va débuter incessamment. La présidente arrive. Je dis le procès, mais il s'agit seulement d'une commission d'enquête, comme vous le savez. Introduisez-vous dans la NAS, Natasha Dovchenko. Bien au centre. C'est une mesure de protection pour les membres du tribunal. Le règlement l'exige. N'interprétez pas cela comme une menace.
Ça va, Sylvia? Ça va, Jenny? Excusez-moi, j'ai été retardée. Il fallait que je me mette d'accord avec le commissariat sur le dossier.
Tout est prêt, Mamaya. La technicienne nous fait signe. L'enregistrement peut démarrer.
Parfait. Vous avez votre masque, Jenny? Ça paraît idiot, mais il faut qu'au moins une d'entre nous ait revêtu son masque. C'est précisé dans le code de procédure pénale. Autrement, notre décision pourrait être contestée.
Soyez sans crainte, Mamaya. J'ai mon masque.
Respectons le code de procédure. C'est là-dessus que repose une justice saine. Pour ce qui me concerne, je suis comme Sylvia, je préfère ne rien avoir sur la figure. Et puis, toutes ces images qui affluent dans la tête quand on a son masque, ça me fatigue.
L'accusé aussi a préféré venir sans masque. Sur le plan juridique, ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas?
Non. C'est son droit. Dans une civilisation humaniste de femmes comme la nôtre, les accusés peuvent se présenter devant le tribunal dans la tenue qui leur plaît. Je sens l'odeur de sa figure nue, une odeur de peur, comme toujours les accusés en exhalent quand elles se retrouvent coincées entre les parois de la nasse. Oh, elle sent aussi le feu, les cendres. Elle doit avoir un logement dans un quartier qui a brûlé autrefois. C'est incroyable. Ces relents de guerre qui persistent après 3 siècles. Bah, c'est bien. Puisque tout le monde est là, on peut y aller, ouvrir la séance.
L'accusée Natasha Dovchenko s'est présentée devant nous en compagnie d'un expert, Indira Killer. Les 3 juges ayant autorité pour animer cette commission d'enquête sont ici Jenny Arkansas et moi-même, Sylvia Zaragoza, ainsi que notre présidente, Mamaya Yenisei. Le procès est déclaré ouvert. La parole est à la présidente.
Oui. Et tout d'abord, je rappelle à l'accusé qu'il ne s'agit pas d'un procès criminel, mais bien d'une commission d'enquête. Les débats vont être enregistrés.
Natacha Dovchenko, je vous invite à vous exprimer avec sincérité tout au long des débats. Sommes-nous d'accord ?
Non, nous ne sommes pas d'accord. Je suis prisonnière devant vous, enfermée dans une nasse. Depuis le début, vous confondez commission disciplinaire, commission d'enquête et procès criminel. Je sais que je ne sortirai pas d'ici vivante. Vous souhaitez seulement m'entendre avant de procéder à mon exécution. J'aurais pu m'enfuir et vivre en exil dans le désert, mais j'ai répondu à votre convocation. Je suis venue parce que le code de procédure vous oblige à m'écouter avant ma mort, et surtout parce que vous devez m'enregistrer. Je vais parler, pour que quelqu'un un jour entende ma voix, quand le temps d'archivage se sera écoulé, que ce soit dans 10 ans ou dans 100 ans. Quant à ma sincérité, oui, bien sûr, je vais m'exprimer avec sincérité. Mais je ne suis absolument pas d'accord avec vous ni avec ce tribunal, Mamaya Yenisei.
Ça ne fait rien. On ne vous oblige pas à l'être. Jenny, s'il vous plaît, j'aimerais que vous fassiez une synthèse du dossier d'Ovchenko.
Une synthèse ? Très bien. Natacha Dovchenko est sortie de crèche il y a 2 ans avec une formation en géologie qui la destinait à des missions à l'extérieur. Il y a 6 mois, alors qu'elle effectuait des travaux en surface, elle a rencontré des archéologues qui, elles aussi, comme on le sait, sont amenés à parcourir le désert. À la suite de ces contacts, Natacha Dovchenko a rédigé un petit livre qu'elle a fait circuler sans autorisation parmi les membres de son unité de travail. L'ouvrage a été immédiatement saisi par la police, car son contenu est subversif. Natacha Dovchenko y développe des concepts qui travestissent la vérité historique. Elle y propage des hypothèses qui contredisent ce que nous savons sur l'origine de notre culture humaniste et sur l'origine de l'espèce humaine. Par exemple, Natacha Dovchenko met en doute notre système de datation, dont le zéro correspond à la fin de la guerre noire. Elle prétend que la guerre noire ne s'est pas terminée il y a 3 siècles, mais beaucoup plus tôt. En partant d'une telle supposition hasardeuse, Natacha Dovchenko élabore des théories indécentes sur notre civilisation, allant jusqu'à suggérer que notre culture n'est pas humaine. Natacha Dovchenko remet en cause notre compréhension de ce qui est humain et de ce qui ne l'est pas. De telles réflexions auraient pu conduire leur auteur vers une unité psychiatrique si elles s'étaient cantonnées à un délire oral, mais elles ont pris la forme d'un texte écrit et ainsi elles sont devenues socialement dangereuses. Natacha Dovchenko place notre civilisation devant un gouffre. Après les souffrances de la guerre noire, l'espèce humaine a eu du mal à reconstituer son identité. Nous ne désirons pas connaître à nouveau des violences raciales dues à des interrogations inutiles sur nous-mêmes, comme ce fut le cas pendant le temps des troubles. Le livre de Natacha Dovchenko n'apporte rien de bon à l'humanisme. Il s'attaque aux bases mêmes de notre pensée humaniste. Il met en doute de façon scandaleuse notre appartenance génétique à l'humanité. Il faut détruire ce livre. Il faut détruire son auteur. Il faut détruire celles qui en ont eu connaissance.
Natacha Dovchenko, ne soyez pas impressionnée par la sévérité de Jenny Arkansas. C'est la procédure qui exige une telle rudesse. Il faut toujours que l'accusation soit rude. Rassurez-vous, aucune décision n'est prise à l'avance. Nous sommes ici pour vous écouter, pour discuter avec vous et pour vous comprendre. Pas pour vous assassiner.
Je sais. Les temps barbares ont laissé place à l'humanisme. On n'assassine pas tout de suite. On n'exécute qu'après discussion sur la synthèse.
Calmez-vous. Reprenons un peu la synthèse de Jenny Arkansas. C'est dans le désert, à l'extérieur, que vous avez rencontré une équipe d'archéologues. Que faisiez-vous en surface? Quel genre de travaux?
Il s'agissait d'établir le tracé d'une adduction d'eau qui relierait plusieurs colonies. Les tubes devait traverser des terres arides sur environ 4000 km. Cela représente de gros travaux de terrassement, la mise en route de stations de pompage, Ma tâche consistait à effectuer des relevés géologiques et à repérer les nappes phréatiques. J'ai rencontré les archéologues dans une vallée où j'étais en train de compléter une carte. Nous avons échangé des informations.
Quelles informations ? On se demande bien quel genre de discussion vous avez pu avoir avec ces femmes, alors que vous travaillez dans des domaines très différents et que vos niveaux d'instruction ne sont pas comparables.
Les archéologues analysent les traces du passé. Nous avons échangé des informations sur le passé.
Je suis comme Sylvia Saragosa. Je ne comprends pas comment vous, une technicienne des sols, vous avez pu vous entendre avec des spécialistes d'histoire.
Nous avions des centres d'intérêt communs. Les sols aussi ont une histoire. Une vieille histoire. Quand des géologues creusent dans le désert ou ailleurs, elles peuvent tomber sur un site intéressant pour l'archéologie. Ça ne s'est jamais produit à ma connaissance, mais c'est une possibilité.
En tout cas, la recherche en archéologie est classée dans les domaines sensibles. Vous ne pouviez pas l'ignorer. Elle est même à peu près interdite aujourd'hui. Or, vous en avez fait état dans votre livre. Ne faites pas l'innocente. Vous saviez très bien que vous n'aviez pas le droit de divulguer ce que les archéologues, par imprudence ou négligence, vous ont confié.
Les archéologues ne m'ont rien confié de sensible. Je n'ai rien divulgué. Je n'ai cité aucune découverte archéologique en particulier. Il n'y a aucun secret dans mon livre. Vous pouvez vérifier, vous n'avez qu'à le lire.
Tous les exemplaires ont déjà été détruits, ainsi que les impudentes qui les ont approchés d'une manière ou d'une autre. Mais puisque vous nous l'affirmez, nous vous faisons confiance, Natasha Dovzhenko. Continuez.
J'ai seulement réfléchi sur le fait que l'archéologie n'avait aucune trouvaille significative à son actif. Les archéologues ont exploré des surfaces gigantesques depuis plus d'un siècle. Et jamais elles n'ont mis à jour le moindre site pouvant être rattaché à des périodes historiques antérieures à la guerre noire. C'est cette absence de découverte qui m'a intriguée. Dans mon livre, je m'interroge sur l'absence d'informations. Pas sur des informations précises, qu'elles soient sensibles ou non.
Bien. La commission a convoqué un expert, Indira Killer. Vous êtes archéologue, n'est-ce pas ?
Oui, je fais partie du petit contingent que le commissariat maintient en semi-liberté.
Natasha Dovzhenko prétend que l'archéologie n'a fait aucune découverte d'importance, bien qu'elle ait déjà exploré d'immenses territoires. Vous le confirmez ?
L'archéologie est une science dont on a très vite limité les activités. Elle n'a pas pu se développer de façon satisfaisante. S'il y a un bilan à faire, c'est surtout celui des persécutions dont les archéologues ont été victimes. Aujourd'hui, seules deux équipes sont encore tolérées. Elles travaillent sous haute surveillance. Elles ne peuvent plus rien explorer.
Répondez à ma question au lieu de vous plaindre, Indira Killer.
Dès qu'on sort de nos pyramides souterraines et des jardins de petite profondeur construits au début du siècle dernier, dès qu'on marche à l'extérieur, on est dans un univers désertique. On foule une terre aride avec une végétation maigre et une faune raréfiée. On y remarque ici et là des traces humaines récentes, par exemple des galeries enterrées ou des monticules. Mais les autres traces de vie organisée sont inexistantes.
Ce que vous dites contredit les documents qui circulent, les photographies qui montrent de nombreuses ruines.
Il y a de nombreuses ruines, oui. Mais elles datent des temps barbares ou du temps des troubles. Le désert n'est pas vide. Seulement, à l'exception de ces restes abandonnés durant les trois derniers siècles, on ne voit en surface aucune matière qui puisse améliorer notre connaissance de l'histoire humaine.
On a peine à vous croire. Tous ces sites dont nous avons les images en tête, Bokvo 2 et 3, Inkik 5, Padura, ce ne sont pas des sites liés à la guerre noire.
Non, c'est une légende officielle. Bonne pour les écoles et les crèches. Mais Bokvo 2, par exemple, a été édifié, puis incendié au temps des émeutes raciales il y a moins de 200 ans. Les photographies sont impressionnantes, mais elles ont été prises par la police et jamais les équipes d'archéologues n'ont été autorisées à fouiller le site, même quand l'archéologie était bien vue par le commissariat. Puisque pendant 15 ou 20 ans, au siècle dernier, l'archéologie a été bien vue par le commissariat.
Continuez, Indira Killer.
Il y a environ un siècle et demi, juste après le temps des troubles, notre civilisation humaniste était encore balbutiante. L'histoire de notre civilisation reposait sur des ouïghirs. Les autorités ont décidé de rompre avec l'obscurantisme et d'ausculter le passé de manière sérieuse. Les crèches ont donc formé quelques équipes spécialisées en archéologie. Ces équipes ont été chargées de mettre à jour les vestiges monumentaux de la civilisation qui avait failli disparaître avant la nôtre. Il fallait écrire l'histoire. La question était, que s'est-il passé pendant la guerre noire et avant ?
Et où en êtes-vous dans vos réponses un siècle et demi plus tard ? Je ne vous demande pas de dévoiler devant nous des informations sensibles, bien entendu.
Il n'y a pas d'informations sensibles. Sur ce sujet, Natacha Dovchenko reprend une évidence. Nous avons exploré les étendues désertes de la surface. Nous avons fouillé dans de nombreux endroits et il n'y a rien. Il n'y a rien nulle part. Des ruines de colonies qui vivaient au premier siècle, des sites de massacres datant du temps des troubles, oui, mais pas de traces humaines allant plus loin que les temps barbares. Avant l'année zéro, nous ne trouvons rien.
La guerre noire a été une période d'anéantissement massif, au point que l'humanité s'est vue menacée en tant qu'espèce. Il y a 300 ans, nous avons émergé de ce crépuscule. Nous avons repris nos esprits, nous avons recommencé à construire au lieu de détruire. Puis les émeutes raciales ont failli nous entraîner vers une nouvelle catastrophe, et nous avons heureusement oublié ces périodes sombres. Il est normal que les traces du passé soient difficiles à trouver, dans nos mémoires, comme dans la réalité. Longtemps, nous avons été comme des somnambules. Et d'autre part, tous ces soubresauts ont balayé des éléments historiques essentiels.
Vous savez, Mamaya Yenisei, essentiel ou non, là n'est pas la question. Il n'y en a pas, voilà. En surface, en profondeur, nous ne tombons jamais sur une preuve de l'activité humaine avant le début de notre calendrier. C'est-à-dire pendant la guerre noire, ou avant.
Et qu'est-ce que vous en déduisez, Indira Killer ? Que l'espèce humaine n'existait pas avant notre apparition ? Que nos ancêtres étaient des fantômes ? Que la guerre noire n'a pas eu lieu ? Que c'est une invention d'halluciner ? Autant dire une pure foutaise. Et vous, Natacha Dovchenko, comment voyez-vous les choses ? C'est bien sur l'échec des fouilles archéologiques que vous vous fondez pour mettre en doute l'existence de l'espèce humaine avant la guerre noire.
Je ne mets pas en doute l'existence de l'espèce humaine avant la guerre noire. Ce que je remets en cause, c'est notre système de datation. Je pense que des humains peuplaient la planète avant nous, que la guerre noire a bien eu lieu et qu'elle s'est terminée sur une extinction horrible de la civilisation humaine. Mais pour situer ces événements, il faut reculer loin dans le temps. Trois petits siècles ne suffisent pas.
Alors, selon vous, combien d'années nous séparent de la fin de la guerre noire ?
Je ne sais pas. C'est incalculable.
Ce n'est pas une réponse. Affirmez quelque chose. Répétez ce que vous avez écrit dans votre livre.
Je n'affirme rien dans mon livre. J'essaie de cerner une vérité. La civilisation qui s'est autodétruite si radicalement, si sauvagement, ne pouvait être qu'une civilisation industrielle, capable d'essaimer sur l'ensemble du globe terrestre. La guerre noire a causé des dommages irréparables sur tout et partout. Mais alors, nous devrions être sans cesse en contact avec des ruines. Des ruines en surface, en profondeur, très étendues, énormes. Il suffirait de jeter un caillou n'importe où dans le monde pour qu'il retombe sur un site archéologique.
Ne vous arrêtez pas. Poursuivez votre raisonnement.
À mon avis, si les chercheurs ne trouvent rien, c'est parce que ces vestiges innombrables ont eu le temps de se transformer en poussière. Et pour cela, quelques siècles ne suffisent pas. Mon point de vue de géologue, c'est qu'il aura fallu des millions d'années de silence et d'effritement, sans compter de gigantesques modifications de relief et de climat.
Des millions d'années ? Où voulez-vous en venir, Natacha Dovchenko ?
Je ne veux en venir nulle part. Je ne prétends pas résoudre des problèmes qui me dépassent. Je me contente de réfléchir sur des données qui sont à la disposition de tout le monde. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on décide de me supprimer plutôt que de lancer un débat public sur ces données très simples.
Il n'est pas question de vous supprimer, Natacha Dovchenko. Détendez-vous. Je vous rappelle que vous ne risquez rien. Vous vous exprimez ici librement dans le cadre d'une commission libre. Nous sommes en train de mener ensemble une discussion sur un sujet qui nous passionne toutes. Nous réfléchissons ensemble. Personne ne va mourir.
Vous savez, Natacha Dovzhenko, je ne crois pas qu'un débat public sur ces questions soit une bonne chose. Les interrogations sur des sujets qui touchent notre mémoire et nos origines raciales peuvent très bien dégénérer une nouvelle fois, comme au temps des troubles. Déjà au temps des troubles, c'est autour de la notion d'humanité et d'animalité que des populations entières se sont mutuellement exterminées.
Lorsque vous renvoyez la guerre noire des millions d'années en arrière, vous bouleversez toutes nos certitudes sur nous-mêmes, sur nos origines. Vous vous attaquez à l'histoire même de notre espèce. Nous fonctionnons sur l'idée que nous sommes les héritières de quelque chose qui est né avec la guerre noire, il y a environ 3 siècles. Et en même temps, nous avons la sensation très nette d'appartenir à une vieille communauté humaine dont nous ne faisons que prolonger la vieille, la très vieille histoire. Si vous placez entre nous et la guerre noire une période démesurée, cette idée s'écroule.
Oui, cette idée s'écroule. On est alors en droit de penser que l'humain a totalement disparu avec la guerre noire, il y a très très longtemps. Et c'est horrible.
On a du mal à se représenter une durée d'un million d'années. Vous y réussissez, vous, Natacha Dovzhenko?
Un million d'années, et même beaucoup plus. Des dizaines de millions d'années. Il y a des éléments qui nous aident à... Par exemple... Quand on creuse...
Poursuivez.
Parfois, quand on creuse pour faire des études de sol, on traverse des gisements géologiques à la nature mystérieuse. On les appelle les gisements riches. On y trouve des métaux purs rassemblés d'une façon inexplicable, des plombs, des alliances de molécules qui n'ont pas lieu d'être à cette profondeur. Les gisements riches ont entre 20 et 70 millions d'années. Qui sait s'il ne s'agit pas des restes d'une ancienne civilisation humaine et de ses complexes industriels et urbains, entièrement dévorés par le temps?
Indira Killer, cette question de Natacha Dovzhenko a-t-elle été examinée par les archéologues?
Non, pour les archéologues, les gisements riches ne sont pas un objet d'étude. C'est une bizarrerie chimique de la nature. Pour nous, ce n'est rien de plus.
Natacha Dovzhenko, si les humains ont disparu il y a des dizaines de millions d'années, et si nous avons seulement pris conscience de notre existence collective il y a 2 ou 3 siècles, qui sommes-nous? Qui êtes-vous, Natacha Dovzhenko? À quelle espèce animale appartenons-nous, vous et moi?
Je suis comme vous. Je me pose des questions sans réponse. Chacune de nous a en tête des vérités simples et rassurantes. Notre mémoire historique est assez nette, avec des zones obscures et des erreurs, mais au fond avec un calendrier précis qu'il nous paraît idiot de remettre en cause. Chacune de nous porte sur ses poils l'odeur des braises de la guerre. Nous habitons des endroits où subsistent les traces des incendies et des carnages. Nous en tirons la conclusion que la guerre noire s'est terminée hier. Mais peut-être que notre mémoire nous trompe.
Comment ça? Notre mémoire nous trompe?
Notre mémoire est imprégnée de mythes et de légendes. Les mythes qui organisent notre vision du monde ont peut-être confondu le temps des troubles, qui a failli nous mener à l'autodestruction, avec la guerre noire, si éloigné de nous que les spécialistes sont impuissants à en relever les traces. Peut-être que cette confusion nous empêche de voir que 2 espèces humaines différentes se sont succédées sur cette planète, avec un intervalle de temps d'une ampleur effroyable.
Ah, bon. Vous me rassurez. 2 espèces humaines, c'est mieux qu'aucune. Finalement, dans votre théorie, nous appartenons bien à l'espèce humaine. C'est bien ça. Nous appartenons à l'une de ces 2 espèces humaines.
Je pense que nous sommes humaines, oui. Ce qui a toujours fait l'humain, c'est quoi? C'est la conscience d'être individu à l'intérieur d'une espèce intelligente. Et c'est aussi la capacité de transmettre une expérience collective, de la discuter et de la modifier sans cesse.
Ce ne sont pas des caractères physiques ou même génétiques.
Si on suit votre raisonnement, Natacha Dovchenko, n'importe quelle espèce pourrait être humaine, n'est-ce pas? Il suffirait qu'elle prenne conscience qu'elle a un langage, des modes d'organisation civilisés, une mémoire, des mythes fondateurs, n'importe quelle espèce. À partir du moment où elle se proclamerait humaine, elle le serait. J'ai bien compris.
En tout cas, c'est certainement comme cela que nous avons procédé après le temps des troubles. Nous n'avons même pas de souvenir net de ce qui s'est produit à cette époque. Et pourtant, c'était il y a 150 ans. D'une barbarie obscure, nous sommes passés aux lumières de l'humanisme. Et nous avons défini une culture humaniste. La culture sur quoi repose notre civilisation. Avant, nous étions dans une sorte d'état somnambulique, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Nous vivions collectivement sans avoir donné de nom à notre collectivité. Et en quelques décennies, nous avons décidé que nous étions l'humain et que les autres espèces étaient le non-humain. Puis nous nous sommes inventés des ancêtres et une longue histoire humaine. Mais peut-être n'y a-t-il eu, avant cette nomination fondatrice, avant ce baptême du sang, peut-être n'y a-t-il eu qu'une longue évolution et pas d'histoire. L'évolution d'une espèce de plus en plus intelligente, mais pas encore consciente qu'elle était humaine. Pas encore assez consciente pour le dire.
Il y a une minute, vous avez parlé de caractère physique ou génétique. D'après vous, à quoi ils pouvaient ressembler ces humains dont vous rêvez et dont nous ne descendons pas, ceux qui peuplaient la Terre il y a 50 millions d'années?
Je n'en ai aucune idée.
Vous avez abordé la question dans votre livre.
On peut tout imaginer. Une espèce humaine dotée d'un langage et d'une culture collective, mais peut-être très différente de nous. Je ne sais pas.
Dites-nous comment vous voyez les êtres qui errent dans ce passé, Natacha Dovchenko, même si c'est hideux ou invraisemblable. Parlez sans crainte.
Par exemple, on peut imaginer des humains avec des membres moins nombreux que les nôtres, ou une taille naine, ou géante. On peut imaginer des humains de, je ne sais pas moi, de près de 2 mètres de haut, ou encore avec seulement une paire d'yeux et capable de voir sans masque, ou inapte à la vie souterraine, vivant et se déplaçant surtout en surface. On peut imaginer n'importe quoi. C'est comme un cauchemar. Ou encore une civilisation sans colonie, sans crèche, avec des individus au sexe différencié, comme on en observe dans les espèces animales, avec des humains hommes et des humains femmes. C'est un cauchemar qu'il nous faudra peut-être assumer un jour, si les archéologues finissent par découvrir quelque chose.
Bien. Merci Natacha Dovchenko pour cette charmante peinture de l'humanité du temps des gisements riches. Il y a entre 20 et 70 millions d'années. Est-ce que vous estimez avoir remué ici tous les sujets qui vous tiennent à cœur?
Non. Il faudrait comprendre comment la conscience collective nous est venue. Et pourquoi cette conscience est née dans les génocides et les massacres raciaux au milieu du temps des troubles? Et pourquoi, alors que les créatures humaines de la guerre noire ne sont pas nos ancêtres, nous avons malgré tout retrouvé en nous des traces de leur mémoire, avec des mythes, avec des légendes qui établissent une sorte de filiation entre nous et elles. Comme si malgré l'abîme du temps, la Terre avait conservé pour nous, pour les humains, quelle que puisse être leur apparence, le souvenir d'une première existence.
Oui. Je vous interromps, Natacha Dovchenko, ça suffit comme ça. Inutile de multiplier les spéculations. Des spécialistes discuteront de cela plus tard, à l'ouverture des archives. Bien. L'heure a tourné. On arrête là.
Les débats sont clos?
Oui. Il faut bien terminer à un moment ou à un autre. On va considérer que les débats sont clos. Jenny, à vous la parole.
L'accusé a été entendu. La commission va rendre son avis. Il dira Killer, nous vous remercions d'avoir éclairé les débats avec votre avis d'expert. Mamaya, est-ce que l'expert se retire?
Il ne dira qu'une heure, il n'est pas nécessaire que vous assistiez à la fin de la séance. Vous pouvez rejoindre la technicienne dans sa cellule de travail. Elle aura besoin de vous pour authentifier l'enregistrement. Elle vous demandera de lui donner une empreinte vocale. Elle vous attend.
Ne vous donnez pas la peine de mentir, Mama Yanisei. Je ne me fais pas d'illusions sur ce que vous avez prévu pour moi. Vous supprimez les archéologues les unes après les autres. Nous avons été toutes beaucoup trop loin dans l'examen d'une matière à caractère sensible. Cela m'étonnerait que la technicienne ne soit pas membre des commandos de la police. Vous dites qu'elle m'attend, oui. Elle m'attend pour me piquer. Je préfère être tuée ici avec Natacha Dovchenko plutôt que dans la cellule d'enregistrement.
C'est un peu inhabituel. Mais c'est votre droit. Si vous vous solidarisez à ce point avec l'accusé, vous pouvez vous introduire dans la NAS et écouter avec elle notre décision. Natacha Dovchenko, vous acceptez la présence d'Indira Kiler à côté de vous?
Ça m'est égal de mourir seule ou en compagnie. Qu'elle vienne à côté de moi, si elle veut. J'ai toujours apprécié le contact avec les archéologues.
Très bien. Indira Kiler, veuillez entrer dans la NAS. Natacha Dovchenko, écartez-vous un peu. Oui, comme ça.
Les débats sont clos. Conformément au code de procédure criminelle, la présidente va exposer une dernière synthèse par laquelle elle dira le droit.
Je serai brève. Nous avons assisté à l'exposé d'un système délirant qui plonge ses racines dans une matière sensible. Nous ne savons pas ce qui a agité Natacha Dovchenko. Des idées subversives ou la folie. Ce qui importe, c'est que sa pensée est intolérable. Les répugnantes visions raciales de Natacha Dovchenko donnent l'impression que nous venons de surgir du néant après une brusque mutation génétique et que nous étions encore dans l'animalité il y a quelques décennies. À l'entendre, nous nous sommes emparés de l'humain et de l'humanisme sans être véritablement humaines ni aptes à l'humanisme. Nous n'avons pas besoin d'individus qui s'acharnent à nous calomnier, ni de visionnaires, ni de propagandistes du bizarre. Notre culture est encore trop fragile. Tout doit être fait pour que la parole de Natacha Dovchenko n'ait aucune diffusion. Tout à l'heure, et avec l'accord du commissariat, j'ai demandé à la technicienne de ne pas brancher l'enregistreur. Nous n'aurons donc pas de bande magnétique à détruire. Quant à Natacha Dovchenko, elle devra être supprimée dès à présent, évidemment.
Je peux dire quelque chose? Quelque chose d'important?
Non, Dovchenko, vous avez assez parlé.
Je pense que nous descendons des araignées, mais que nous en avons honte au point de tout faire pour l'oublier.
Je vous ai retiré la parole, Dovchenko. Commencez à prendre l'habitude du silence. Indira Kiler, vous êtes dans une position qui vous permet d'exécuter l'accusé. Exécutez-la si vous désirez vous racheter devant le tribunal.
Elle est morte. Elle ne s'est pas débattue.
Bien. Voilà déjà quelque chose que nous n'aurons pas eu à faire.
Je peux sortir de la masse maintenant.
Non. Vous restez vous aussi, Indira Kiler. Vous allez être tués dans la toile. Merci de nous avoir débarrassés de cette dingue, mais vraiment vous en avez trop entendu. La technicienne s'occupera de vous dans une minute. Le moins il y aura de survivants dans cette affaire, le mieux ce sera.
Et nous?
J'en ai parlé avec le commissariat avant le procès. Nous, on va se taire. Jenny va rester un peu en arrière pour s'occuper de la technicienne. Et ensuite, toutes les trois, on va s'en aller et on va se taire.
Outrage à Migal, de Antoine Volodine,
avec Josette Boulva, Edith Perret, Lucienne Deschamps, Anne Rousselet, Raphaëline Goupillot. Bruitage. Alain Flatiot. Prise de son, montage, mixage, Bernard Lagnel, Catherine Dereté. Assistant, Jean-Sébastien Esposito. Réalisation, Myron Mercier.